Bonjour à tous, et puis je voudrais déjà vous présenter les salutations de l'église de la Prairie à Montbéliard. Là à cœur, parce que beaucoup de gens sont venus au départ dans cette église ici à La Vosges, en particulier pour la rénovation des bâtiments. Beaucoup de gens vous ont à cœur et pensent à vous. Je voudrais prendre ce matin un texte de Jacques, Jacques chapitre 1. Versets 5 et 8. C'est un texte qui était sur mon cœur depuis quelques mois et que le Seigneur m'a mis un peu à cœur d'approfondir, parce qu'il me pose souvent question ce texte. Jacques 1, versets 5 et 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Ce texte nous dit que si on demande la sagesse, Dieu nous la donnera. Moi, je trouve que c'est une affirmation forte. Hein. Je ne sais pas si elle n'est pas très sage, c'est peut-être parce qu'on ne la demande pas à Dieu, je ne sais pas. Il la donnera généreusement et sans reproche. Alors, ce matin, je n'aimerais pas parler tellement de la sagesse, mais j'aimerais être plus large. J'aimerais voir un petit peu cette question de demande à Dieu. Comment est-ce qu'on demande à Dieu les choses? Comment est-ce qu'on prie? Si on constate un manque dans nos vies, est-ce qu'on prie déjà? Comme si vous constatez que vous manquez de sagesse, est-ce que vous la demandez à Dieu? Je crois qu'il n'y a pas de demande qui soit trop petite pour Dieu, ou trop insignifiante. Si cela nous préoccupe, je crois que ça préoccupe Dieu. Et j'ai rencontré souvent des gens qui me disaient « Ah oui, mais ça vaut pas le coup, ça je demande pas à Dieu. » Je dis « Non, je crois que pour Dieu, il n'y a pas de petite et de grande demande, il y a ce qui assure notre cœur. Et je crois qu'on est là pour lui apporter, et je crois qu'on a besoin de retrouver une grande simplicité par rapport à Dieu. » Jésus va dire la même chose hein, dans l'Évangile, dans Matthieu 7:7, il va dire « Demandez, et on vous donnera. » Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Pour recevoir quelque chose de Dieu, et si la sagesse, il est dit dans ce texte qu'il faut le demander avec foi, sans douter. Et ça, je crois que c'est la condition essentielle de la prière, pour avoir une réponse de Dieu. Donc, que celui qui demande le demande, et Dieu donnera de façon généreuse, et ce qui est marqué au verset 6, il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter. Le cependant me pose problème. Dans l'Évangile, on voit que Jésus va renforcer le trait. Il dit que même l'impossible est possible. Il va dire, ça c'est dans Matthieu 21, verset 21, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui était fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et verset 22, si, et là, de nouveau, un petit mot là, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. C'est des sacrées affirmations. Et ce verset 22, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez, peut être vraiment douloureux dans nos vies, je ne sais pas pour vous, parce que on a tous, je crois, demandé des choses à Dieu. On ne les a pas toujours obtenues comme on les espérait. Peut-être pour vous c'est différent, pour moi c'est comme ça. Il y a des choses que j'ai demandées à Dieu que j'ai jamais obtenues comme je le désirais, comme je le pensais. Et c'est là que je crois que le cependant, il faut le demander avec foi, ou si vous le demandez avec foi, est important. Parce que C'est ça qui fait la différence. Ça veut dire quoi, demander avec foi? Il y en a qui opposent demander avec foi à prier selon la volonté de Dieu. Il y en a qui me disent, je n'ai entendu dire, c'est qu'on prie selon la volonté de Dieu, ben finalement, c'est qu'on n'a pas vraiment la foi. Mais je crois que les deux vont ensemble. Et prier avec foi, et prier selon la volonté de Dieu, ce sont deux faces d'une même pièce. Vous savez, c'est comme une pièce de monnaie. Si vous regardez d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas la même chose. Et je crois que notre prière, elle a ces deux faces. Elle a d'un côté prier avec foi, et de l'autre côté, prier selon la volonté de Dieu. Et je veux commencer par prier selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes toujours certain de la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours simple. Il y a des choses, des fois, qui sont simples. Par exemple, dans ce texte de Jacques, demander à Dieu de la sagesse, je crois que c'est une prière selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu tient ce qu'on soit sage selon lui, selon son Père. Donc il n'y a même pas besoin de se dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça l'est. C'est comme si on prie pour que quelqu'un devienne chrétien. Je crois que, a priori, c'est la volonté de Dieu qui s'approche de lui. On peut prier, comme prier pour aimer mon ennemi. Il nous le demande. Il n'y a pas besoin de dire, Seigneur, je ne suis pas sûr que je dois l'aimer celui-là. Non, vas-y, tu peux y aller, c'est ma volonté, prie directement. Il y a comme ça des choses, on connaît la volonté de Dieu, elle est écrite noir sur blanc dans sa parole. Donc, pas besoin de réfléchir bien longtemps, notre prière est dans sa volonté. Il y a un autre type de choses, c'est où Dieu nous donne l'assurance que ce pour quoi nous prions, il l'a accepté. Il est d'accord avec cette prière. Dans Hébreux 11, verset 1, il est dit « La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas un vague espoir. C'est une confiance totale et par moments. » Il y a des moments dans ma vie où c'est arrivé, où Dieu m'a donné une certitude absolue que c'était sa volonté et que je vais continuer de prier dans ce sens-là. Et parfois, et bien des fois, je dirais dans notre vie, c'est moins clair. Je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi c'est comme ça. On n'est pas toujours certain de sa volonté. Je pense à la prière de Jésus à Gethsémané. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis Jésus, là, je pense qu'il connaissait la volonté de son Père. Mais il y avait quelque chose de difficile pour lui à accepter. Quelque chose où il avait besoin d'être vraiment convaincu. Moïse, quand il prie Dieu pour entrer dans le pays de Canaan, il prie contre la volonté de Dieu. Ce n'était pas sa volonté qu'il entre. Et pourtant, ça paraissait une bonne chose qu'il puisse entrer dans ce pays de Canaan. David, quand il prie pour que le fils qu'il a eu avec Bathsheba puisse guérir, et bien il prie contre la volonté de Dieu, ce fils va mourir. On n'y comprend rien parce que ce fils... Tout bébé qu'il est n'a pas fait de mal, c'est le Père qui a fait du mal. Et la prière de David n'était pas selon la volonté de Dieu. Pareil pour Paul, quand il prie pour cette écharpe qu'il a dans la chair, il va répondre, Dieu va lui répondre, ma grâce te suffit. C'est pas ma volonté d'ôter cette écharpe. Alors, il y a des moments... Dans nos prières, on ne sait pas forcément que c'est la volonté de Dieu. Il va nous répondre plus tard. Il y a un moment comme ça, un temps d'incertitude où on prie. Et je crois que douter de ce qu'est la volonté de Dieu, ce n'est pas manquer de foi. C'est aussi simplement pas, on est que des hommes. On n'a pas toujours une révélation précise de ce qu'est la volonté de Dieu. Alors qu'il faut peut-être qu'on prenne plus de temps pour continuer de prier, pour essayer de comprendre, pour essayer d'écouter. Et de voir ce que Dieu veut nous dire sur ce sujet particulier. L'évangile de Jean nous donne une autre clé pour comprendre ça. Il dit, c'est Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, encore ainsi, hein, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Moi, la première partie, elle m'intéresse. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » C'est comme une sorte de maturation, des fois. Il y a besoin de demeurer en Christ dans nos prières, en Dieu. Puis un jour, on verra exactement quelle était sa volonté là-dessus. Sur Montbéliard, on a prié pendant plusieurs années pour faire un projet inter-église qui s'appelle Bouge ta ville. C'est un projet où les églises se mettent quelque part, bénissent quelque part la ville où ils habitent, où elles sont, pour permettre d'être témoins dans cette ville, pour faire des actions sociales, pour faire barbecue géant, concert dans la ville, enfin vraiment faire que les chrétiens sortent dans les rues, soient visibles et soient une sorte de bénédiction pour leur ville. Et on a prié plusieurs années parce qu'on a failli commencer quelque chose en 2009 et puis la personne qui devait s'en charger finalement a lâché. Et on priait pour qu'il soit trouvé un coordinateur. Et c'était ma prière, qu'on puisse trouver un coordinateur pour ce projet Bouge ta ville. Et de 2009 à 2012, on a prié pour ça. Seigneur, donne-nous un coordinateur. Et puis en été 2012, pendant mes vacances, alors qu'avec Raymond on faisait de la marche en montagne, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Il m'a dit, mais ta prière, elle n'est pas vraiment juste. Prie pas pour avoir un coordinateur, il y en a un. Il m'a dit, d'une façon très claire, à un moment donné, mais ça faisait plusieurs années qu'on priait, il m'a dit, mais fais-le, pourquoi tu pries? J'en ai parlé à ma femme tout en redonnant, et il m'a dit, ben vas-y, si tu as cette conviction-là. Et voilà comment en rentrant de vacances, j'ai téléphoné, j'ai dit au président du CNEF local, écoute, si tu veux, moi je veux bien prendre ce rôle de coordination. Et voilà comment le projet a pu se faire l'année d'après. Mais je crois qu'à un moment donné, dans nos prières, on doit vraiment se positionner devant Dieu. Et Dieu nous montre des choses auxquelles on ne pensait pas. Et nous conduit sur des voies qu'on ne pensait pas et il corrige un petit peu notre prière. Et à côté de ça, donc, prier selon la volonté de Dieu, il y a prier avec foi, sans douter. Et je crois que prier avec foi, sans douter, c'est deux, trois choses très importantes. C'est déjà croire que Dieu peut tout faire. Mais vraiment peut absolument tout faire. Ce verset dit que si vous avez la foi, Dieu peut faire tout ce qu'il veut, il peut dire à cette montagne de se jeter dans la mer. Moi, quand je vois comme un être humain est capable de vivre pendant 60, 70, 80 ans, 90 ans au maximum, peut-être 100 ans, et qu'il n'y a pas de bug, que tout marche. De temps en temps, il y a des maladies, mais c'est tellement peu par rapport à ce qu'il pourrait y avoir comme problème. Face à ces millions de connexions qui existent en nous, qui permettraient que je me tienne devant vous et que je ne m'écroule pas. Moi, c'est pour moi, ça c'est la capacité d'un Dieu qui peut faire l'impossible avec juste quelques molécules. Prier avec foi, c'est dire et croire de tout son cœur que Dieu écoute nos prières. Il écoute tellement nos prières qu'il va les exaucer. Et du coup, je prie parce que je crois que prier fait la différence. Mais des fois, il y a des moments dans notre vie où on se dit, mais ça ne sert à rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça ne sert à rien, ça ne change rien. Rien ne change. Je prie pour telle chose et puis ça ne se passe jamais. Puis il y a d'autres moments où on voit qu'il intervient. Pour reprendre ce projet de Bouge ta ville, pour être concret, on a fait un projet de jour en juin 2013, fin juin 2013, de deux journées en plein air. Tout se passait en plein air. On n'avait absolument rien dedans. Il nous fallait, pour deux journées en plein air, sachant qu'on était du matin au soir dehors, il nous fallait du beau temps. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du premier semestre 2013, l'année dernière, on a eu vraiment un printemps pourri. Et plus il faisait pourri, plus on priait. Seigneur, qu'il fasse beau. Et le Seigneur nous a vraiment surpris. Il nous a surpris, mais à sa façon. Bouge ta ville était le vendredi, samedi. À partir du dimanche, on a eu le plein été. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien. Il faisait chaud comme il n'y en a pas eu chaud, et puis après on a eu vraiment un bel été. Mais le vendredi, samedi, c'était les derniers jours de mauvais temps. De façon exceptionnelle, il n'y a pas plu le vendredi, Le samedi, on a commencé les travaux de défrichage dans la forêt sous la pluie, mais une petite pluie. Peut-être c'était pour nous dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir trop chaud pour défricher dans la forêt. Et on avait absolument besoin qu'il fasse un minimum beau pour la... Pour ce qu'on voulait faire à 17h, c'était une flash mob dans les rues. On avait besoin de beau pour ça. Et quand on est arrivé à 16h, il pleuviotait. Et sur la place où on devait faire, moi je connaissais le gars qui avait le café sur la place, et pas du tout chrétien. Et puis il me dit, ben, vous allez faire quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il avait vu dans le journal un peu les actions. Je lui dis, ben, on va faire une flash mob. Alors il commençait à grogner, oui, mais ça va boucher l'entrée de mon café. Je lui dis, non, vous ne faites pas de soucis, vous allez sortir vos tables, parce que je vais vous remplir les tables. Et puis votre café, vous voyez, vous allez voir comment il va fonctionner. Parce qu'en même temps, je lui demandais une table pour pouvoir faire un film. Donc, en échange, je lui avais promis qu'on allait remplir les tables. Il me dit, c'est pas la peine que je les sorte, regardez le temps qu'il fait. Je lui dis, vous allez voir, à 17h, il fera beau. Il était 16h30. Et moi, je peux dire que j'ai été interloqué de voir comme Dieu a intervenu. Vraiment, à 16h45, un quart d'heure avant, on a eu une zone lumineuse. Les nuages sont partis. On avait des amis qui étaient sur Mulhouse et qui étaient sur Besançon, juste entre Montbéliard, Saint-Mulhouse et Besançon, qui disaient qu'il pleut. Et il pleuvait à peu près 20-30 km un peu partout. Et là, sur le pays de Montbéliard, il y avait une zone de beau temps que le Seigneur a mise, mais de façon étonnante. Tellement étonnante que l'adjoint au maire, qui est communiste, est venu nous dire, mais vous avez le bon Dieu avec vous, c'est normal. Je crois qu'il disait ce qu'il disait venait de sa part. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. C'est 1 Jean 5,14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est mon assurance. Et la troisième chose, de prier avec foi, il peut tout faire, il écoute réellement nos prières. C'est croire que sa réponse, quelle qu'elle soit, sera bonne pour tout. Elle sera bonne pour nous, quelle que soit sa réponse. C'est prier sans douter. C'est comme au psaume 38, verset 15, « C'est à toi, Éternel, que je m'attends, c'est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu. » Je crois que croire ça, c'est plus fort que croire qu'il va obligatoirement nous donner ce que nous on a demandé. Ça va même plus loin. Je reprends l'exemple de Bouchetavid. La prière à la fin, avant que je sache si on aurait du temps correct ou pas, c'était « Tout ce que tu donneras sera bon, même si c'est de la pluie et si je ne comprends pas. » On en était arrivé à là dans nos prières. On avait tellement besoin de beau temps, qu'on était arrivé à ce point-là de dire « Même si tu donnes la pluie, ben, c'est qu'il nous la fallait. » Même si nous, on ne comprend pas. Je crois que ça peut être la même chose dans nos vies, dans plein de domaines. On demande des choses au Seigneur, très précises. Et peut-être que ce n'est pas tout à fait ce qu'il veut. J'ai prié par exemple pour la guérison de mes parents qui sont décédés. Il n'a pas guéri, il n'a pas répondu. Donc ce que je veux vous dire ce matin, c'est pas vous allez prier, vous allez obtenir ce que vous avez prié. C'est Dieu va vous surprendre, il ne va pas répondre forcément comme vous voulez, mais à un moment donné vous allez devoir accepter, ou si vous le voulez, ben, que sa volonté nous dépasse. C'est, je crois, aussi apprendre à demander selon son cœur, selon sa volonté. On a des fois des demandes qui ne sont pas forcément comme il désire, qui peuvent être même mauvaises pour nous, on n'en sait rien, peut-être qu'un jour on le comprendra. Vous savez que dans Matthieu 7, il dit, si un fils demande à son père du pain, est-ce qu'il va lui donner une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent? C'est au même à l'inverse. Imaginons que des fois, peut-être, on demande à Dieu une pierre. Puis il nous dit, non, je ne te donne pas cette pierre. Peut-être que des fois, dans nos prières, on croit que ça va nous faire du bien, puis en fait, c'est un serpent qu'on demande. J'en sais rien, je crois qu'il y a des moments où on ne réalise pas tout, et quelques années après, on peut comprendre ce que réellement il voulait nous donner. Et la foi, c'est vraiment cette confiance en Dieu. Confiance sans laquelle nul ne saurait être chrétien que de nom. La foi, c'est se mettre sous cette dépendance totale de Dieu. Et ma prière n'est plus une prière qui est arrogante, qui dit, voilà, moi je sais ce dont j'ai besoin. Mais c'est une prière qui dit, moi j'ai confiance que tu vas me donner le meilleur. Alors je ne sais pas quels sont vos sujets de prière pour le moment. Ce à quoi je vous encourage, et je m'encourage moi-même là-dessus, c'est dans ce pourquoi vous priez, priez avec foi, en croyant que Dieu l'écoute, que Dieu peut faire ce qu'il veut, qu'il n'y a pas de limite à ça, à son pouvoir, mais en même temps que prier selon sa volonté, c'est dire « je te fais confiance dans ta réponse », même si elle ne me va pas, a priori. Le deuxième élément, par rapport à cette prière avec foi, il nous dit que des fois, dans ce texte de Jacques, des fois on peut douter. Et quand on doute, on peut ressembler aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Il nous a dit qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Je crois que c'est un deuxième problème qu'on peut avoir, c'est quel cœur on a pour Dieu. Derrière notre prière, quel cœur réellement on a pour Dieu. Le cœur est des fois partagé. Dans le texte original, il est dit, c'est un esprit ou une âme ou un cœur qui est double, qui est divisé. C'est-à-dire une personnalité divisée, un cœur partagé en deux, comme si on avait deux âmes ou deux cœurs. Est-ce qu'on est partagé ou unifié dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce qu'on est? Et là, je pense que notre vie, on pourrait la comparer à un beau bouquet, un petit peu comme celui-là. Un bouquet où certaines fleurs se mettent des fois un petit peu en avant. Vous voyez, là, il y a des grandes tiges qui sont au-dessus de toutes les autres, qui se dressent un petit peu avec orgueil, toutes droites. Il y en a d'autres qui sont toutes petites, là, qui se cachent au fond. Il y en a d'autres qui sont sales, salies par le péché. Il y en a d'autres qui sèchent, qui sont toutes grillées au fond du pot, parce que elles ont grillé sous l'amertume, peut-être par manque de pardon, ou elles ont séché par manque d'eau, elles ne sont pas demeurées en Christ. On y voit des fois dans le bouquet des mauvaises herbes qu'on poussait toutes seules, qui n'ont rien à faire là. Un cœur partagé, c'est encore plus grave qu'un bouquet avec certaines fleurs qui ne vont pas, avec certaines fleurs qui sont en mauvais état. Un cœur partagé, c'est ce bouquet qui est carrément divisé, partagé en deux au lieu d'être unifié. Le bouquet ne tient pas ensemble, il n'a aucune allure. L'homme partagé n'a ni sens ni orientation dans sa vie, il ne sait pas où il va. Un peu de Dieu par là, un peu de monde par là. On retrouve ça dans les exemples des rois dans la Bible. Il est dit souvent dans les rois et les chroniques, vous retrouvez ça, que son cœur ne fut pas entièrement attaché à l'Éternel son Dieu. Souvent on le trouve. Son cœur ne fut pas tout entier à Dieu. Le cœur unifié, c'est le contraire, c'est par exemple pour le roi Asa, il est dit, il fit ce que l'Éternel considère comme juste, comme son ancêtre David. C'est un cœur qui est sans partage, totalement à Dieu, un cœur unifié, un cœur à 100% pour Dieu. Il n'y a pas de partage possible. C'est ce que Jésus dit, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, un cœur entier, totalement unifié pour Dieu, ce n'est pas un cœur sans péché. Je crois que c'est important de le dire. Pour Asa, dans 1 Roi 15-14, il est dit, « Cependant, bien qu'Asa ait eu un cœur attaché, sans partage à l'Éternel durant toute sa vie, les hauts lieux ne disparurent pas. » Dans ce bouquet, dans nos vies, il y a toujours des fleurs qui ne sont pas au point, qui ne sont pas terribles. Des fleurs sur lesquelles il faudrait faire du travail. Mais on y travaille, je crois, avec la volonté du fleuriste. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines fleurs qui sont ou de la mauvaise herbe ou qui ont séché ou qui sont sales que le bouquet n'est pas entièrement unifié. C'est un petit peu comme l'image du cœur d'un homme pour sa femme. Un homme peut avoir un cœur tout entier pour sa femme, même si son cœur est parfaitement pur, mais il est tout entier pour sa femme. C'est un peu la même chose. Le cœur partagé, c'est le cœur qui ne laisse pas Dieu travailler sur certaines parties, qui laisse s'installer des comportements où Dieu n'a pas son mot à dire. On laisse certaines zones du bouquet avec des fleurs malades et on ne se rend pas compte que progressivement ça gagne tout le bouquet. C'est un peu un pied dans chaque camp. Mais le cœur entier, c'est un cœur 100% accessible à Dieu. Dieu peut travailler dans tous les domaines de ma vie. Dieu peut travailler dans mon corps tout entier, dans ma maison, dans mon jardin, dans mes jours, dans mes nuits, dans mes vacances, dans mon travail, dans mes moments de libre, dans mes hobbies. Il n'y a pas d'endroit qui est réservé. Et la conséquence de ce cœur qui n'est pas 100% à Dieu, c'est qu'on devient inconstant dans ses voies. On est comme ballotté. On peut vivre des choses belles avec Dieu, et puis le lendemain, on a comme tout oublié. Et pourtant, on est sincère. Il y a comme un décalage entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Et c'est parfois tellement anarchique que ce bouquet, un jour, il peut éclater. Comme notre vie peut presque exploser parce que justement on n'a pas fait attention à ça. Et Jacques, justement, dans son épître, nous donne un exemple et nous encourage avec un homme, il est dit, de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il est soumis aux mêmes pressions, qui a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, qui a bien du mal dans sa vie, quoi. Et cet homme, c'est Élie. Et le texte nous dit, c'est Jacques 5, ça, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans à 6 mois. Jacques 5, 17. Littéralement, il est dit, il pria de prière. C'est-à-dire, il pria de tout son cœur. Il pria avec foi. De toute la foi qu'il avait. Et son cœur n'était pas partagé. Il pria de prière. Et Dieu lui répondit. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde Élie, c'est que quelques jours après cette prière, tellement forte, cette réponse de Dieu extraordinaire, on le retrouve avec dans son bouquet une fleur qui peut tout gâter. C'est un roi 19. Il est dit qu'Élie prit peu. Parce que dans son bouquet, il y a une fleur qui se gâte, c'est la peur qui vient. Cette peur qui vient parce que la reine Jézabel veut le pourchasser, elle veut le tuer. Et voilà que Élie, qui vient de vivre un temps extraordinaire avec Dieu, laisse pousser cette fleur de peur. Elle va détruire sa confiance en Dieu. Il va devenir dépressif jusqu'à dire à Dieu, prends ma vie. Incroyable. C'est le même qui pria avec instance et qui fait que Dieu empêche la pluie, qui voit un miracle extraordinaire, qui est capable de dire, prends ma vie parce que j'ai trop peur. Elle ne vaut plus le coup d'être vécue. Et là où on va le voir, dans ce moment si bas, où on a l'impression que le bouquet il est presque tout pourri, on va le voir prier. On va voir Dieu qui le relève, qui va lui dire « Lève-toi et marche ». Il est dit que fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Et c'est comme ça qu'il récupéra, je dirais, son bouquet de façon unifiée. C'est comme ça qu'il fit du nettoyage, qu'il ôta la peur, avec cette force que Dieu lui donnait. Il ne laissa pas son cœur se partager. Donc Dieu veut unifier vos cœurs pour prier avec foi. Et l'unité, c'est une conquête, c'est permanent. Pour que nos vies tiennent dans sa main, pour qu'on puisse se rappeler que nous ne sommes que des créatures et que c'est la main de Dieu qui nous fait tenir ensemble, nous devons faire une chose. C'est quand nous voyons que nous avons des moments où il y a des fleurs qui arrivent comme ça, qui n'ont rien à faire dans le bouquet, nous avons à nous approcher de lui. Et là, je crois que c'est vraiment la question que je vous laisse ce matin. C'est, est-ce que vous avez un domaine réservé où Dieu n'a pas accès? Ne le laissez pas sans accès à Dieu. Dieu a besoin d'intervenir, il a besoin de faire du nettoyage. Dans Jacques 4, 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Il reprend le même mot « âmes partagées ».« Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous, purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Et je crois que notre travail, c'est de demander à Dieu sans arrêt d'intervenir dans ce bouquet, lui laisser faire le nettoyage. Quand le péché fait éruption dans le bouquet et veut nous disperser, Dieu peut intervenir. Mais ne sous-estimons jamais ces petites fleurs qui n'ont rien à faire dans le bouquet, qui vont progressivement l'emporter. Moi, j'ai eu dans ma vie des telles fleurs. Des telles fleurs qui n'avaient rien à faire dans le bouquet. J'ai laissé dans un moment donné se développer un manque de pardon dans ma vie. J'avais au Laos une personne, j'ai travaillé au Laos donc pendant 7 ans. Et plus tard, il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé là-bas. Et il y a eu un moment donné une personne qui avait quelque chose contre moi. Et pendant 6 ans, il était impossible de causer ensemble. Impossible de se retrouver sans que ça soit tendu, difficile. Et chaque fois, chaque voyage que je faisais au Laos, c'était un sujet douloureux pour moi. J'essayais d'aller la rencontrer pour qu'on puisse régler nos histoires, et c'était pas possible. Et c'était pour moi vraiment un sujet difficile, parce que je voyais que dans ce bouquet de ma vie, il y avait cette fleur malade et que, sur laquelle je n'avais pas d'action possible, et j'arrivais pas à faire ce nettoyage. Et l'année dernière, en octobre, quand on y est allé, je l'ai rencontré comme d'habitude, et en parlant, on a de nouveau parlé de tout ce qui nous avait séparés. Et après 3 heures de discussion, je dirais stérile, dire voilà, ben ça va pas, c'est... Oui, mais si t'as fait ça, oui, mais bon, voilà pourquoi je l'ai fait, etc. On essaie de s'expliquer, et puis finalement, ça n'a abouti à rien. Au bout de 3 heures, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai pas envie que ça continue comme ça. Il m'a répondu, je te demande pardon. Et ça, je m'y attendais même pas du tout. Parce que ça faisait 3 heures qu'on discutait sur rien. À ce moment-là, un pardon réciproque a pu être donné. Et je dirais que Dieu est intervenu à ce moment-là. Et toutes les chaînes qui nous liaient, qui nous empêchaient de nous retrouver, sont tombées en une seconde. Si je ne peux pas dire un quart de seconde. Et en aussi peu de temps qu'il le fallait. C'est comme si Dieu avait déverrouillé quelque chose. On s'est retrouvés dans les bras d'un autre. À un moment donné, Dieu s'est approché et il l'a unifié. Et je crois que ça c'est vraiment ce que Dieu veut nous enseigner. Il désire qu'on fasse cette prière comme au psaume 86, verset 11. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Mais avant qu'il unifie, il faut qu'on accepte qu'il fasse le ménage. Qu'on accepte qu'il nous reprenne. Qu'on accepte qu'il dise ça va pas. N'oubliez jamais que sans lui, le bouquet ne tiendra jamais. C'est impossible qu'il tienne, car on n'en a pas la force. Et nous sommes des bouquets dans cette main de Dieu. Et moi, je vois combien simplement, des fois, un temps de prière devant Dieu peut simplement me redonner la force pour continuer. Alors, ce que je vous dirais pour terminer, c'est expérimenter dans votre vie la prière de la foi. Cette prière de la foi qui est issue d'un cœur unifié, d'un cœur ferme et sans partage, qui ne doute pas que Dieu écoute et répond selon sa volonté et en son temps. La prière. Je te remercie Seigneur parce que tu es un Dieu qui est extraordinaire. Tu vois qu'on se débat dans nos limites et souvent nos incapacités. Et toi, tu nous encourages à avancer avec toi. Tu vois que par nous-mêmes, on est souvent incapable même de faire un nettoyage correct. Mais quand on commence d'ouvrir la porte et dire « Seigneur, tu dois faire quelque chose. Tu dois m'aider parce que j'y arrive pas. Tu dois me permettre d'avoir un cœur sans partage pour toi. Tu dois m'aider à faire le nettoyage. Ben toi, tu viendras. » Et tu le feras. Je te remercie parce que cela me permet ensuite de prier. De prier avec moins de doute, avec plus de foi, avec un cœur sans partage, pour que toi tu puisses intervenir dans toutes les situations de ma vie. Merci Seigneur parce que tu nous entends. Et tu désires cette prière de la foi selon ta volonté, avec un cœur unifié pour toi. Merci de nous y aider et de nous permettre de grandir ainsi en toi.